France Musique.
Bon week-end Nicolas Lafitte et à lundi matin.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne?
Il y a du café?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Fabrication Maison, le magazine qui vous entraîne dans les coulisses de la musique à la maison de la radio. Ce matin, vous pourrez ainsi rencontrer dans le portrait Magali Monnier, flûte solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France et nominée aux Victoires de la Musique. Le reportage d'Hugo Brissel, lui, évoquera l'un des ateliers éducatifs consacrés à l'orgue ici à Radio France. Puis à 8h30, dans la chronique de la Maison Ronde, Marie Fauché évoquera le chef d'orchestre Eliaou Unbal. À 8h30, ce sera le fabuleux monde des archives de Jean-Yves Patte. À 8h45, l'un de vos souvenirs musicaux. Et à 8h50, question de cœur avec Sophie Janin. Vous nous suivez? Alors on y va.
France Musique.
Bonjour Magali Monnier.
Bonjour Dominique.
Alors Magali, je ne sais pas si les auditeurs vous connaissent et pourtant ils vous entendent très fréquemment sur cette antenne puisque le vendredi soir, nous avons des retransmissions de l'Orchestre Philharmonique de Radio France dont vous êtes la première flûte solo. Mais bon, peut-être qu'on vous perçoit pas complètement toujours dans l'orchestre. Mais vous avez souvent de beaux solos.
Je ne me plains pas, ça dépend, c'est clair que ça dépend des semaines et des répertoires, mais... Oui, je suis plutôt bien servie en général.
C'est vrai. Et puis, il faut quand même qu'on le dise, vous avez été nominée Victoire de la Musique cette année. Dans quelle catégorie?
La catégorie interprète instrumentale de l'année.
Interprète instrumentale de l'année.
Incroyable.
Ouais, ça vous fait quoi?
Mais je suis flattée, je ne vais pas bouder mon plaisir, j'avoue que j'ai très bien vécu sans ça
près
de 40 ans, mais quand ça vous tombe dessus sans crier gare, et là de figurer, d'être parmi les trois noms entre deux merveilleux pianistes, je suis ravie.
C'est aussi une façon peut-être de rendre ses lettres de noblesse à la flûte? A-t-elle besoin?
Peut-être, et je pense plus généralement les instruments avant. En fait, pas forcément que les petits bois. Vous avez cette année, dans la catégorie des révélations, une jeune trompettiste brillante aussi.
Tout à fait.
Et voilà.
Vous voulez dire, on parle beaucoup des violons, des violoncelles, moins des flûtes, peut-être parce qu'il y a moins d'ouvrages où ils sont mis en avant en soliste.
Probablement, oui. Les instruments rois, ne tournons pas autour du pot, resteront toujours le violon, le piano, le violoncelle, qui ont une littérature incroyable et qui sont vraiment des instruments qui occupent la scène. Mais la flûte, pour parler plus précisément de mon instrument, balaye des siècles de musique,
oh là,
elle aussi.
Oui.
C'est vrai que peut-être les organisateurs de concerts ou de festivals soit méconnaissent, soit n'osent pas s'aventurer dans une programmation un peu plus baroque, un peu plus pointue, et qu'on se rassure en restant avec les grands compositeurs romantiques, et donc forcément de la musique dédiée au violon, au piano. Et
pourquoi on dit, Magali Monnier, que la flûte est l'un des instruments les plus joués dans les écoles de musique?
Alors,
énormément de petits flûtistes et de petites flûtistes.
Oui, il y a énormément de petits pianistes. Il y a des listes d'attente invraisemblables pour les classes de piano. Mm. C'est vrai qu'il y a pas mal de petits flûtistes, de petits clarinettistes aussi. Il y a des orchestres d'harmonie avec des vingtaines de flûtistes et de clarinettistes pour un ou deux bassons seulement.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est un instrument en fait qui est... Est-ce que c'est par sa taille, un petit instrument avant, comme ça, qui est plus évident, je pense, qui parle un peu plus à l'imaginaire au départ, et comme la clarinette. Mmh. Et quand on ne connaît pas forcément qu'il faut choisir un instrument, qu'on ne vient pas d'une famille de musiciens, ça peut venir à l'esprit plus facilement, j'imagine.
Et puis on peut l'emmener avec soi, partout. C'est un peu comme la voix. La merveilleuse voix de Sandrine Pio dans l'opéra Scipione et de Handel. Avec elle, les talents lyriques que dirige Christophe Rousset. C'est votre premier choix musical, Magali Monnier. On est tous séduits. J'imagine que vous êtes aussi séduite
Bien sûr.
La voix de Sandrine Pio.
Par la voix, par la personne, c'est un tout. Sandrine, c'est une merveille. Il faudrait qu'il y ait que des gens comme ça dans la vie. Je suis absolument fan de cette exubérance vocale, mais tellement contrôlée. La virtuosité incroyable. Évidemment, les opéras baroques requièrent cette légèreté, cette virtuosité, mais elle fait partie des rares qui maîtrisent ça. Ça passe comme si c'était une improvisation. C'est incroyable. Et puis, j'aime beaucoup la personne que je connais et j'admire son parcours, même je l'envie.
Parce que vous me racontiez, je ne sais pas tout moi, de ces coulisses de la vie musicale, mais que Sandrine Piave était harpiste et puis qu'elle avait découvert sa voix. En fait.
Oui, une brillante harpiste qui était entrée au Conservatoire supérieur de Paris. Alors je ne sais plus la petite histoire réellement qui l'a découverte ou si elle s'est mise à fredonner en accompagnant quelque chose et quand William Christie était là, mais il l'a encouragée en tous les cas à chanter et grand bien lui a pris.
Oui.
Et elle a bifurqué
radicalement
et mon Dieu que je suis jalouse de ça.
Et vous me disiez, mais pourquoi vous ne chantez pas Magali Monnier alors?
Ah, je chante toute la journée et c'est ce qui m'inspire le plus. Dans ma démarche de
musicien.
D'instrumentiste, oui, aussi. Alors, je suis venue à la musique, justement. J'ai une famille... mes parents ne sont pas du tout musiciens, mais il paraît que quand j'étais à l'école maternelle, j'avais une institutrice qui avait dit à mes parents, écoutez, elle monte sur les tables, elle chante toute la sainte journée, faites-lui faire de la musique. Voilà. Et puis, dans les petits conservatoires de province, mais il n'y a pas forcément toutes les disciplines représentées, donc il n'y avait pas de classe de chant, à part la chorale qu'on pratiquait en cours de formation musicale, etc., et que j'ai toujours beaucoup aimé. Voilà, j'écoutais pas d'opéra à la maison non plus. Il n'y avait pas une culture musicale chez moi qui a fait
que
vocation aurait pu être suscitée. Ce qui était sûr, c'est que je voulais jouer d'un instrument avant. Alors, il y a probablement un lien direct. Voilà. Et puis, on a exactement la même façon de respirer, nous, les flûtistes, et de relâcher l'air et de phraser. Et c'est vrai que je suis toujours très inspirée par... visuellement aussi ce que font les chanteurs et dans la façon de conduire le vibrato aussi, quelque chose de vocal qui soit pas surjoué, pas artificiel, qui vienne voilà du fond du cœur, du fond de l'âme.
On vous écoute chanter Magali Monnier.
Thank you.
Magali Monnier, c'est le dernier disque que vous venez de faire paraître chez Sony. C'est un extrait de La Flûte Enchantée, un air que vous interprétez avec l'Orchestre de Chambre de Munich, avec lequel vous avez donc enregistré tout un disque consacré à Mozart. J'y vois des arrangements de toutes sortes, dont les vôtres.
Oui.
Vous écrivez vos cadences, vous...
Alors oui, j'écris mes cadences, je les joue parfois, mais c'est vrai que sur ce disque, pour les deux concertis, j'ai choisi de jouer des cadences qui ne sont pas de moi, mais qui m'ont un peu suivi, accompagné tout au long de ma vie de jeune musicienne. Et j'aimais bien le petit clin d'œil de pouvoir les graver, le petit clin d'œil au grand maître Jean-Pierre Rampal. Quand on approche la quarantaine, même si c'est quelqu'un que je n'ai... pas connu, pas fréquenté.
Vous avez ces disques dans l'oreille peut-être ?
Bien sûr, ouais. et puis tout flûtiste français s'inscrit en toute humilité, mais dans la lignée de ce grand maître, hein, oui, bien sûr. Mm-hmm. J'ai toujours beaucoup aimé ces cadences du concerto en sol majeur. Donc je les ai enregistrées, voilà, avec l'accord de son épouse et ses enfants. Je leur avais demandé l'autorisation et ils m'ont gentiment dit qu'ils étaient très honorés et que c'était un grand plaisir. Et puis pour le concerto en ré majeur, j'ai choisi celle de David Walter,
qui a écrit
éminent
beaucoup.
Oboïste français, qui n'arrête pas de faire des transcriptions, qui est passionné. Alors il s'est fait la main avec des transcriptions pour son quintet, le quintet Moragues, mais maintenant tout y passe, des orchestrations, des réductions, il est insatiable. Et moi, David, ça a été mon professeur de musique de chambre au conservatoire. Lui, comme les frères Moragues, ont un peu été des parrains dans le métier, m'ont mis le pied à l'étrier. Et ça me plaisait aussi beaucoup de lui faire un petit clin d'œil.
Magali Monnier, on a écouté beaucoup de musique classique, mais vous n'aimez pas que ça.
When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light on the village green. When I was 17, when I was 21, it was a very good year. It was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair. And it came undone when I was 21. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. When I was 35.
days are short. I'm in the autumn of the year, and now I think of my life as vintage wine from fine older kegs. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year.
Magali Meunier, qu'est-ce que vous aimez? C'est la voix de Sinatra, c'est les arrangements orchestraux derrière,
alors,
dans ses disques.
C'est tout.
Elle aime tout.
Je suis une grande fan de Sinatra, quel que soit le moment de l'année, de la journée. Dès que vous mettez une chanson de Sinatra, vous avez un soleil californien au-dessus de la tête, accroché pour la journée. Ça fait un bien fou. Et cette chanson, particulièrement, à la fois le texte... Le fait de comparer chaque période de sa vie à des grands crus et puis sur ses vieux jours de se considérer comme un bon vin qui aurait bien vieilli. J'aime assez cette vision de la vie et j'adore cette orchestration. En fait, je crois que cette chanson à la base, elle n'avait pas été écrite pour Sinatra, mais il l'a reprise quelques années après sa création et c'est un grand compositeur, orchestrateur, acteur, multitâche de l'époque, Gordon Jenkins, qui a réalisé cette orchestration que je trouve remarquable parce que dans le déroulé, alors il commence quand il avait 17 ans, puis ensuite, donc on a ce refrain par l'orchestre, puis ensuite il a 21 ans et le refrain est repris, mais l'orchestre est plus étoffé, puis ensuite il a 35 ans, je crois, et l'orchestre est encore plus étoffé. Puis finalement, quand il fait le bilan de sa vie, là, eh bien, il n'y a plus que quelques instruments qui viennent donner le dernier refrain avec une grande nostalgie. Je trouve que c'est remarquablement réalisé, en fait.
Magali Meunier, vous aimeriez que l'Orchestre Philharmonique de Radio France joue ce genre de répertoire?
Mais oui!
Parce que les orchestres américains n'ont pas du tout d'a priori sur les répertoires à partir du moment où ils sont bien écrits. On entend de tout. Le Cleveland peut jouer aussi bien, ou Boston, ou New York, toutes sortes de répertoires.
On joue aussi chaque année le prix des musiques de film.
C'est vrai. Prix France Musique des musiques de
film. Voilà, oui. On distingue des compositeurs émérites. Je me souviens qu'on avait joué beaucoup de musique de Gabriel Yared une année. C'était formidable. Non, on le fait déjà beaucoup. Maintenant, qu'une fois dans l'année, je ne sais pas, un programme de Noël, quelque chose, on est un crooner qui vienne et qu'on rejoue toutes ces versions des années 60 où il y avait des orchestrations incroyables. On ne voit plus jamais, de nos jours, de chansons de variété, entre guillemets, réalisées avec un orchestre symphonique. Mmh.
Comment est-ce qu'on conjugue, Magali Meunier, la vie de soliste et puis la vie de musicienne d'orchestre?
Plutôt bien.
Mais c'est vrai, vous n'avez pas du tout l'air tendu.
Non, mais il y a des périodes où je suis un peu tendue parce que la pression est là. On sait la gérer, mais il y a des moments plus difficiles que d'autres. Sur une gestion du temps, réellement... J'ai la chance d'avoir mon poste à l'orchestre qui m'assure une stabilité quand même parisienne auprès de ma famille. Et donc, je pars régulièrement, mais le plus souvent pour seulement quelques jours. Parce que je vous disais tout à l'heure que j'aurais rêvé d'être une chanteuse. Ça, c'est sûrement l'aspect du métier qui m'aurait crevé le cœur. Devoir partir à l'autre bout du monde pendant 2 mois d'affilée pour production d'opéra. Ouais. Ça, c'est quelque chose quand même. C'est une dimension...
humaine et personnelle qu'il faut savoir gérer.
Ça, c'est un vrai sacrifice, oui, je pense.
Mais votre pratique de soliste est quelque chose qui nourrit votre pratique orchestrale, tous ces répertoires que vous jouez avec l'orchestre.
Et vice-versa.
Magali Meunier, nous évoquions l'orchestre, je vous propose qu'on l'écoute. C'était le jour de l'inauguration de l'auditorium en 2014. Mmh. Magali Meunier, c'est un joli souvenir, cette inauguration de l'auditorium.
Ah mais oui, bien sûr, on a tellement attendu cette salle, on a tellement eu peur, les deux orchestres, quand on est partis pendant plusieurs saisons répéter ailleurs. C'était compliqué quand même, parce qu'on a besoin de s'approprier sa salle, faire un son d'orchestre. C'est valable aussi bien pour l'Orchestre National de France que mon orchestre, l'Orchestre Philharmonique de Radio France. On était tellement heureux de découvrir cette salle qui est magnifique, qui sonne merveilleusement. C'est un bel écrin. Puis j'adore la dénomination. Elle est construite en vignoble. Ça me plaît beaucoup.
Oui, il y a quelque chose avec le vin, entre vous et le vin. Le Sinatra
oui,
déjà.
Oui, je crois que musique et vin, ça va très bien ensemble. Mais bon, ça, on pourra en parler une autre fois.
Et puis ce Daphnis et Chloé que vous avez choisi, c'est une pièce pour vous, ça?
Bien sûr, c'est pour moi, c'est évidemment un grand solo de flûte, mais c'est vrai que je suis entrée à l'Orchestre Philharmonique de Radio France au concours en finale. Le maestro Chung est venu me faire travailler ce solo. Et puis dans l'année qui a suivi, je l'avais même jamais joué en concert. On l'a enregistré directement pour Deutsche Grammophon. C'était des grands moments. Et puis après, on est parti dans des tournées aux États-Unis, en Europe, dans toutes les plus grandes salles. On l'a emmené en tournée et c'est à chaque fois des moments incroyables. Et c'est vrai que le maestro Chung a toujours été très inspirant dans cette musique française. Et j'aime la liberté qu'il laisse à ses solistes, la confiance et juste cette capacité qu'il a à juste vous accompagner, vous porter et ne pas vouloir vous diriger, vous laisse faire.
Merci Magali Meunier.
Merci.
Pour notre archive, nous avons choisi ce matin de retrouver un peu l'Italie qui a été à l'honneur cette année pour le festival Présence, avec cet enregistrement réalisé en mai 1974 de la création en France de la pièce de Luciano Berio Calmo. Le compositeur dirigeait à l'époque l'Orchestre National de France et la soliste, eh bien, c'était son épouse, Cathy Berberian. Cet enregistrement est extrait du magnifique coffret d'archives réalisé pour les 80 ans de l'orchestre. Bonjour Hugo Bresset.
Bonjour Dominique Boutel.
Alors Hugo, vous êtes retourné sur les bancs de l'école, c'est bien. Mais pour en apprendre un peu plus sur un instrument à vent qui se joue à l'aide de plusieurs claviers et pédales, tout le monde aura deviné, il s'agit bien sûr de l'orgue.
Oui, instant nostalgie au collège Jean Jaurès de Clichy, je me suis faufilé dans la classe de musique parmi les 25 élèves de 6e venus assister à l'atelier orgue, un atelier proposé par Radio France qui est en partenariat avec la classe cette année. Alors quelques élèves ont même eu la chance de découvrir le fameux orgue de Radio France lors d'un concert, c'était en décembre dernier. L'instrument vibrait pour la première fois dans l'auditorium, mais toute la classe n'a pas pu se rendre à la maison de la radio pour cause de plans Vigipirate. Et Benjamin François, producteur à France Musique, présentateur de l'émission Sacré Musique, s'est dit « Eh bien, s'ils ne peuvent pas tous venir à l'orgue, alors l'orgue viendra à eux. » Il a donc pris ses sons, ses images avec lui et est venu leur parler de cet instrument qui le passionne.
Pourquoi j'anime cet atelier, c'est que j'ai été organiste et j'ai eu à France Musique pendant 3 ans une émission qui s'appelait « Organo Pleno » où on parlait d'orgue.
T'es à la fois un homme de radio et un organiste.
Oui.
Donc t'es le mieux placé pour aborder ce thème avec les enfants. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui ?
Eh bien, je les ai trouvés extrêmement réceptifs. Ils partent de loin. Ils n'ont pas forcément beaucoup eu de contact avec ni les instruments, la musique. Mais je crois que c'est d'autant plus intéressant de labourer un terrain qui est quasiment vierge, avec des yeux qui pétillent comme ça et qui sont curieux de tout, qui posent des questions, pas forcément celles qu'on attend. Alors c'est assez passionnant, je dois dire.
Parler d'un instrument si ancien à des élèves de 6e, tu disais que c'est un instrument moderne en fait.
Oui, à Radio France, l'instrument qui est construit est un orgue qui fait appel à la technologie informatique, très poussée. Il a été mis en place avec des systèmes 3D par ordinateur, on n'en a pas parlé là, mais il y a tout un aspect hyper moderne maintenant dans la fabrication des orgues, même si au départ, le travail du facteur qui coule son métal à base de plomb, d'étain, c'est resté des techniques tout à fait ancestrales. Donc il y a un côté hyper moderne, et en même temps hyper ancien. Je crois que c'est un aspect fascinant qu'il faut essayer de transmettre aux enfants, quoi. Hier soir, quand j'ai préparé brièvement, je me suis dit quelles peuvent être les questions qui affleurent comme ça quand on découvre l'instrument. Et j'ai voulu leur donner une approche qui soit un peu historique en leur montrant que l'orgue il a évolué à travers les âges pour parvenir eh bien, à l'orgue moderne d'aujourd'hui, celui de Radio France. Je leur ai montré aussi un instrument qui architecturellement montre des pistes comme ça pour l'avenir à Évreux, à la cathédrale et dans certains autres lieux pour leur montrer que l'histoire n'est pas finie et que très certainement, elle va continuer dans les années, dans les dizaines d'années et dans les siècles qui vont suivre. Cet orgue a une histoire absolument incroyable que je vais essayer de vous raconter. Je vous ai apporté un tas de documents pour que vous puissiez voir, parce que maintenant c'est formidable avec Internet, il y a tout, il y a absolument tout. Et en plus, la jeune histoire de l'orgue de Radio France, elle a été documentée par des films, déjà. Il y a des films qui ont été tournés de 4-5 minutes, qui sont très bien faits, lorsque l'instrument a été inauguré en Espagne, puisque c'est un orgue qui a été fabriqué à Barcelone. L'orgue et la radio, qu'est-ce que ça vient faire, hein ? c'est un peu la question qu'on peut se poser. Alors, vous savez que ceux qui sont venus, Radio France est une énorme maison qui est dédiée entièrement à la radio. Hein. C'est vraiment la maison de la radio, on l'appelle comme ça, dans Paris. Elle est connue comme ça, elle a un concept architectural, c'est une architecture extraordinaire qui a été construite dans les années 60 et qui est faite complètement pour la radio. Est-ce que vous êtes déjà venu dans cette maison ?
Oui.
Oui. Est-ce que vous reconnaissez ?
Oui, alors Marina Cichanteau, je suis responsable de la médiation culturelle et de l'action éducative à Radio France. On travaille avec des établissements scolaires qui sont situés en REP ou des lycées professionnels. Et l'idée, c'est vraiment leur faire découvrir un univers de Radio France, mais de manière assez pédagogique, ludique et vraiment les confronter à des professionnels de la radio. Donc là, on est ici dans le cadre du parcours autour de l'orgue. Du coup, qui est un peu chapeauté par Benjamin François dans le cadre de son émission Aussi Musique Sacrée et de sa grande connaissance de l'orgue, et qui, du coup, du fait de Vigipirate, comme la classe ne peut pas se déplacer en fait à l'extérieur de l'établissement très facilement, est venu ici pour présenter les différents types d'orgues.
Qu'est-ce que vous avez vu ? Chinese mouth, la bouche, organ. L'orgue à bouche chinois. Voilà, mais vous l'aviez deviné, hein, vous l'avez déjà plus ou moins dit. Voilà, si vous entendez ça, est-ce que vous pourriez dire que c'est un orgue ?
Non.
Ça ne se reconnaît pas forcément. Et bien pourtant, cet instrument est encore plus vieux que l'orgue qu'on a ici en Occident. Ça, c'est un orgue. Alors j'ai un autre objet non identifié, à vous, que vous avez identifié, à vous présenter. Est-ce que vous avez déjà entendu un orgue comme ça ?
Oui.
Où est-ce que vous en avez entendu ?
Bah,
dans le métro ?
Oui.
Oui, c'est un orgue de Barbarie, effectivement. Et on en trouve où ça ? Vous en avez vu dans le métro ? Oui, et bien dans les foires. C'est un orgue de foire, voilà. Radio France, parce que ça n'est ni un orgue à bouche, ni un orgue de cinéma, ni un orgue de Barbarie, ni un orgue d'église. Est-ce que j'en ai oublié ? C'est un orgue de salle de concert, d'accord ? Dans un auditorium. Alors, on va voir un petit peu comment cet orgue a été construit.
Je m'appelle Madame Lachili, je suis professeure d'éducation musicale et de chant choral au Collège Jean Jaurès de Clichy-la-Garenne. Ce sont des élèves de 6e. Tous les ans, déjà, j'organise des parcours pour les élèves, pour les mener à des découvertes, mais au sein d'un parcours qui met en relation toutes les matières. C'est une classe particulière puisqu'elle a été créée cette année et c'est une classe qu'on a appelée sans notes. Donc les enfants sont tous évalués tout au long de l'année en fonction, selon leurs compétences. Ils ne sont pas arrêtés dans leur parcours par des notes qui sont souvent brimantes pour les enfants. Et effectivement, ce parcours de classe sans notes aussi, qui est donc un autre parcours, est intéressant dans cette classe où on a quand même beaucoup d'enfants en grosses difficultés scolaires qui doivent retrouver sens dans l'école à travers ce parcours.
J'ai compris qu'il y en avait un à Clichy d'ailleurs, d'orgue.
Il y a un orgue à l'église de Clichy et on aimerait, en deuxième partie du parcours, aller visiter cet orgue et on espère qu'il nous sera présenté par le professeur d'orgue du conservatoire de Clichy, qui est un conservatoire à rayonnement régional, et on attend cette rencontre, ce rendez-vous. Tant que peut se faire, on essaye de faire venir les intervenants aussi en classe. Et vous voyez qu'à travers les médias, etc., on arrive quand même à mener le projet, même si ce n'est pas devant l'orgue de la Maison de la Radio. On a quand même espoir de pouvoir aller le voir un jour.
Qui c'est qui est là? Le chef d'orchestre. Qui c'est qui est là autour? Le public. Alors, l'organiste ici, il n'y est pas. Mais s'il était là, il pourrait être à deux endroits différents. Il y a possibilité avec l'orgue de Radio France de le jouer depuis deux points. Ou bien on a une console normale, comme dans tous les orgues, qui est en dessous de l'orgue, qui est une console mécanique. L'autre configuration, c'est que l'organiste, quand il doit jouer avec l'orchestre, s'il est là, ça va être problématique pour lui parce qu'il sera loin. Et en plus, il ne pourra pas voir le chef. Ça ne va pas du tout. Alors donc, on a une autre console qui, cette fois-ci, est une console électrique.
La console, c'est les claviers. Hein.
Tous les claviers. C'est la cabine de pilotage, si vous voulez. Cette cabine de pilotage, on peut la mettre où on veut, sur la scène, selon l'œuvre qu'on joue. Si on est avec quelques musiciens, on peut se mettre au centre. Si on est avec tout l'orchestre, on peut se mettre en marge, de façon à ce que l'organiste puisse bien voir le chef pour pouvoir être en mesure avec les autres musiciens.
Que tu as appris sur l'orgue aujourd'hui?
Que c'est un instrument de musique et que ça peut se jouer de différentes façons.
Comment?
Avec les pieds, avec les mains, avec la bouche.
Tu l'as vu l'orgue? Est-ce que tu peux me le décrire?
Il y a des tuyaux.
Ouais. Et t'en as déjà vu un en vrai?
Oui.
Où?
À la Radio France.
D'accord, donc t'es allé voir le concert à la Maison de la Radio.
Oui.
Alors t'avais pensé quoi de ce concert?
Qu'il était bien. Il y a plein de sortes d'orgues, il y a des orgues naturels, il y a des orgues d'église, il y a des orgues de cinéma, il y a des orgues, je sais plus comment ça s'appelle, les orgues avec le papier, là, les orgues de barbarie, voilà. On appuie sur des touches et on tire des manettes et on appuie sur des pédales et ça fait des sons avec les tuyaux.
Et t'en as déjà vu un en vrai ?
Oui, à Radio France. Avec ma classe, mon professeur principal, il m'a dit qu'il nous a proposé d'y aller pour ceux qui voulaient. Et du coup, j'y suis allée avec des amis et c'était un concert avec de l'orgue et une chorale d'enfants et d'adultes.
D'accord, et alors t'as entendu quoi ce jour-là?
J'ai entendu des chants en anglais, je crois. C'est des chants de Noël, apparemment.
Et t'as vu l'organiste en jouer?
Oui. Bah, il faisait comme du piano, sauf qu'il y a les pédales et c'est pas le même son. Puis il y avait quelqu'un à côté qui tirait les manettes pour l'aider.
Et toi, t'aimerais bien en jouer?
Oui, j'aimerais bien, ce serait rigolo.
J'ai appris sur l'orgue que c'était un instrument avant qu'on pouvait l'utiliser avec une seule personne. Il y a plusieurs claviers qui sont comme superposés.
Tu as déjà vu quelqu'un en jouer?
Oui, un monsieur. Mais je sais pas, il faisait comme de la sorcellerie, il faisait un truc bizarre avec sa tête. Ça fait bizarre. On dirait qu'il fait des potions magiques parce qu'il prend. Il prend les touches. Après il fait. Tape.
Vous écoutiez un extrait du concert de Noël avec Orgue qui s'est tenu en décembre dernier dans la maison de la radio. Fin 2015, l'orgue de Radio France vibrait pour la première fois au cœur de l'auditorium. Je rappelle que l'instrument conçu par le célèbre facteur Gerhard Grenzig à Barcelone est toujours en cours d'harmonisation aujourd'hui et tous les jeux n'ont pas encore été installés. D'ailleurs, son inauguration officielle aura lieu cette année le week-end du 7 mai. Et sachez que vous pouvez parrainer l'un de ces 5230 tuyaux. La Fondation Musique et Radio est en quête de donateurs, des mécènes qui se feront donc attribuer un tuyau et qui participeront ainsi aux futures activités autour de l'instrument comme des résidences de jeunes organistes, un cycle orgue et cinéma ou encore un concours de composition et aussi des visites et ateliers destinés aux écoles comme celui auquel j'ai assisté pour ce reportage.
Merci Hugo Brisset. Et puis je signale à nos auditeurs que nous recevrons dans Fabrication Maison la semaine prochaine Olivier Latrigue, qui est l'un des initiateurs de ce projet de l'orgue à Radio France. Merci Hugo, à bientôt.
À bientôt.
La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Alors le grand chef d'orchestre Marie Eliaouine Ball fête ses 80 ans la semaine prochaine en compagnie de l'orchestre philharmonique de Radio France. Ils donneront ensemble un concert le vendredi 4 mars à l'auditorium de la Maison de la Radio.
Eliaouine Ball a été reconnue en France et un peu partout dans le monde, surtout grâce à son intégrale des symphonies de Mahler avec l'orchestre de la radio de Francfort qui date du début des années 80. La presse internationale avait alors salué la naissance d'un grand chef d'orchestre et surtout d'un très grand mahlérien. Il ne dirige pas ses symphonies, il s'y reflète, il s'y scrute comme un miroir, pouvait-on lire. Et le miroir dépassait la partition, l'allure même d'Eliaouine Ball évoquait alors celle de Mahler. Lui-même disait « Depuis longtemps je m'identifie totalement et même fanatiquement à Mahler, autant qu'à sa musique, peut-être parce que j'ai, comme lui, une nature anxieuse, tourmentée. » Mahler lui-même craignait toujours de se tromper, d'aller trop loin lorsqu'il dirigeait ses symphonies. Celui qui les dirige aujourd'hui ne doit jamais se départir de cette anxiété. Jusqu'au dernier moment, l'angoisse me poursuit. Avec Mahler, il est impossible de se convaincre qu'on a trouvé la vérité et qu'on va s'y tenir. Pour une balle, diriger Mahler, c'est ne pas faire sans l'anxiété. C'est sur ce fil extrêmement ténu qu'il se tient avec Mahler.
Thank you.
Le début du premier mouvement de la 4e symphonie de Gustav Mahler par l'orchestre de la radio de Francfort, dirigé par Eliaou Inbal. C'est extrait de son intégrale des symphonies de Gustav Mahler.
Eliaou Inbal est un chef d'orchestre d'intégrale. On l'a même surnommé le chef intégral.
C'est pas mal.
Bruckner, Mahler donc, Berlioz, Beethoven, Ravel, Shostakovich, Tchaïkovski, Schoenberg et bien d'autres. Pour lui, c'est une façon de procéder pour approfondir, pour s'emparer d'une œuvre, en avoir une vision, en extraire une logique et pour découvrir le jeu de relations et de tensions entre les œuvres. Eliaou Inbal dit que cela a été bénéfique pour son propre développement. On ne cesse jamais d'apprendre. J'ai assez tendance à penser, dit-il encore, qu'un chef est débutant jusqu'à ses 70 ans. Alors ça tombe bien pour nous, puisqu'il fêtera ses 80 ans avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec son premier amour, Anton Bruckner.
Le début du scherzo de la 9e symphonie d'Anton Bruckner, toujours l'orchestre de la radio de Francfort dirigé par Eliaou Inbal.
Eliaou Inbal est un homme d'idéal, un homme engagé, qui ne fait pas les choses à moitié, comme le montre d'ailleurs sa façon d'embrasser des œuvres intégrales. Il a un regard sur le monde, sur les conflits géopolitiques, on peut rappeler d'ailleurs qu'il est israélien. Il remarque, contrairement aux citoyens que divisent perpétuellement leurs opinions politiques, les musiciens finissent toujours par se mettre d'accord autour d'un terrain d'entente, la partition. Ainsi, un consensus se fait. Chacun sait obscurément pourquoi il est là. Chacun est bien obligé de reconnaître que finalement il aime ça. Ce qui manque à l'humanité, c'est peut-être une partition. We'll be right back.
Delia Wynbal dirige ici l'Orchestre National de France dans La Valse de Maurice Ravel.
Et je vous rappelle qu'Elia Wynbal fêtera son anniversaire avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France le vendredi 4 mars prochain à l'Auditorium de la Maison de la Radio. Au programme la 9e Symphonie de Bruckner et une pièce pour flûte et orchestre de Jörg Widmann avec Emmanuel Pahu à la flûte.
Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine. Agenda. Voyage en Inde, lundi soir à 20h au studio 105 de la Maison de la Radio avec les musiciens invités pour l'émission Couleurs du Monde. Les musiciens Manganyar de Jaisalmer raconteront des histoires du désert du Thar en musique. Diffusion sur France Musique le 6 mars. Peut-être êtes-vous déjà au courant, mais pour des raisons de santé, le chef Ricardo Muti ne pourra diriger l'Orchestre National de France pour son concert du 3 mars. Il sera remplacé par un chef que nous connaissons bien ici, Emmanuel Krivine, qui retrouvera les musiciens du National dans un programme Berlioz, Saint-Saëns et Shostakovich. Et juste avant, à 19h, venez participer à l'enregistrement de l'émission La Tribune des Critiques de Disques qu'anime Jérémy Rousseau. Jeudi au studio 105, il sera question de la sonate numéro 2, dite funèbre, opus 35 de Frédéric Chopin. Vous êtes bien sûr les bienvenus, oreilles toutes ouvertes. Et enfin, je vous le rappelle, c'est samedi prochain qu'aura lieu la première des trois conférences, débats, autour de la musique et du cerveau, en association avec Musique et Santé, ici même à la Maison de la Radio, de 9h à 17h. Pour vous inscrire, c'est sur le site maisondelaradio.fr.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves Pat.
Bonjour Dominique Boutel, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, ça n'est pas très drôle, Jean-Yves, ce que vous nous apportez comme archive.
Non, vraiment, nous ne sommes pas là pour rigoler. Vous savez, nous célébrons en ce moment la grande bataille de Verdun, oui. Avec ces milliers de morts.
De jeunes morts, oui.
Et je voulais aujourd'hui mettre en relief ce qui a d'ailleurs été mis en relief pendant des années à la radio, mais d'un point de vue assez monophonique, c'est-à-dire qu'on célébrait toujours la gloire de Verdun, la victoire, etc. Or, ce son de voix unique était loin d'être le reflet de la réalité. Il y a eu des mouvements pacifistes qui se sont développés très très importants dans l'immédiate après-guerre et qui ont duré jusqu'à la guerre suivante. Et c'est un petit peu de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais d'abord, nous allons nous replonger dans le contexte. En 1916, Verdun, c'était ça.
Dans les ruines d'une chapelle, en plein cœur de Verdun meurtrie, un rossignol et sa femelle avaient abrité l'homme petit. Mais des deux rives de la Meuse, des poches, des canons hideux faisaient pleuvoir tout autour d'eux des torrents de mitraille affreux. Et les mignons petits oiseaux riant des obus et des balles jetaient après chaque rafale leur cuisses à tous les échos. Alimenter sa nichée, le mal allait 100 fois par jour, dans la campagne saccagée, et 100 fois disait en retour. Petits enfants, dormez tranquilles, les poches à grands coups de mort, prendront peut-être quelques forts, mais ils n'auront jamais la ville. Et les mignons petits oiseaux, riant des obus et des balles, jetaient après chaque rafale leur cuit-cuit. À tous les échos. Bataille fait rage et pour leur montrer les Prussiens, là-bas à l'entrée d'un village, le rossignol conduit les siens, hardit les poches, les gringoles, nos petits oiseaux verdenois, sifflant de vieux refrains gaulois, autour des tours des Français volent. Et les mignons petits oiseaux défiant la horde infernale, jetaient après chaque rafale leur cuisses cuites. à tous les échos.
Léonce Bergeret, avec orchestre, chantait donc ses Rossignols de Verdun. Ça date de 1916, Jean-Yves Patte. Qu'est-ce que c'est? C'est un hymne à la gloire de la France?
Alors, c'est une sorte de chanson un petit peu inconsciente. On l'entend bien, c'est les petits Rossignols de Verdun qui guident les piou-piou vers la victoire. Ça mitraille, ça tue, ça tombe comme à Gravelotte.
C'est assez choquant, je trouve. C'est assez choquant,
mais dans le cadre de l'époque, c'était mettre en avant la vaillance, l'indifférence du soldat français à la mitraille, au danger, et sa bravoure extrême. Alors, la réalité, vous le savez, est tout à fait différente. Et je voulais vous emmener 20 ans plus tard, en 1936, à l'ossuaire de Douaumont. Déjà, rien que
déjà
le nom de
l'ossuaire
de Douaumont nous replace dans d'autres réalités. Écoutez quelques extraits d'une grande série de disques qui a été publiée lors d'un rassemblement pour la paix. Pour la première fois, des milliers et des milliers d'anciens combattants de tous les bords, c'est-à-dire qu'il y avait aussi les anciens ennemis qui sont venus et qui ont médité pendant une nuit sur la paix et sur la nécessité absolue de la paix, alors que on le sait, depuis 33 en Allemagne, ce n'est pas le discours non plus qui se développe. 36, c'est une année symbolique, oui. Évidemment. C'est le Front populaire.
En France, on a donc, c'est pas loin de 39 non plus.
C'est pas loin de 39 non plus, et on a cette grand-messe dramatique qui est tournée vers la paix, et je vous propose tout de suite d'ouvrir les micros, comme si nous étions dans la nuit du 12 au 13 juillet 1936.
Mesdames, messieurs, camarades, nous sommes à Douaumont, à quelque distance de Verdun, qui fut l'enjeu de la plus gigantesque bataille que le monde ait connue, devant le cimetière qui s'étend au pied du monument où s'entassent les ossements de 400 000 morts. Les anciens combattants français ont solennellement convoqué tous les hommes qui prirent part à la Grande Guerre, français venus de tous les coins du territoire, ex-alliés, ex-ennemis, les invitant à mesurer fraternellement avec eux la vanité des conflits et à prendre l'engagement sincère et formel de les épargner à la fin.
Voilà, comme vous l'entendez, c'est assez poignant, c'est un reportage, c'est du faux direct, mais les sons que vous entendez, comme le glas actuellement et la sonnerie aux morts qui va succéder, sont des enregistrements qui ont été réalisés sur le vif par ces amateurs, parce qu'il faut bien dire, les enregistrements sont amateurs, de très mauvaise qualité, mais c'est assez poignant de retrouver cela. Il s'agit donc d'une grande cérémonie nocturne, et à minuit, on a éteint toutes les lumières autour de Douaumont, tous les anciens combattants, tous les amis de ce rassemblement pour la paix qui étaient là, se sont retrouvés plongés dans les cimetières et dans le noir. Voilà, donc on se trouve au cœur de cette cérémonie. La musique militaire, la musique des cloches est assez présente. Mais il y avait aussi des commandes musicales qui ont été réalisées à l'époque pour ce rassemblement, cette fameuse nuit de méditation et d'appel à la paix qui va se terminer par un serment de la paix. Et il y a un compositeur russe, pacifiste et mystique, qui a été intéressé à cette cérémonie. Il s'agit de Nikolai Obukhov, qui avait fui la Russie révolutionnaire et qui était arrivé à Paris, qui avait pris contact avec Ravel, qui l'avait d'ailleurs bien accueilli et l'avait encouragé à continuer sa musique. Et il avait trouvé une protection auprès de la princesse Jacques de Breuil. Et la princesse Jacques de Breuil était devenue une de ses élèves, car il avait mis au point, en s'inspirant des travaux de Léon Thérémine, une croix sonore. Alors ça ressemble à une croix chrétienne, c'est pourquoi j'insistais sur le mysticisme de ce compositeur. Et cette croix sonore émettait des sons qui étaient dans la tessiture du violoncelle. Ici, dans cette grande cérémonie, l'instrument est joué avec la princesse de Breuil aux ondes de la croix sonore et le compositeur lui-même au piano. C'est un enregistrement en plein air, c'est de très mauvaise qualité, mais c'est le seul enregistrement connu à la fois d'une pièce de ce compositeur et de cet instrument dans son temps.
Et à présent, de la croix sonore commence.
Un peu tranché comme enregistrement.
Oui, c'est du plein air et puis c'est sur le site même, c'est dramatique. Il s'agissait du tout-puissant Béni la paix, donc de Nikolaï Obokov, avec le compositeur au piano et son élève, la comtesse Marie-Antoinette Osnan de Breuil, qui jouait de cette fameuse croix sonore que vous pouvez voir sur le site. J'ai mis une petite image de la croix sonore. Alors on parlait de Térémine qui a été l'inspirateur de cette croix sonore. Térémine, vous le savez, dès 1917, a mis au point un instrument à ondes électromagnétiques influencé d'un système de protection des prisonniers. On gardait les prisonniers dans des enclos avec des ondes et Térémine s'est aperçu que lorsque le prisonnier s'approchait près de l'onde, selon ses mouvements, la variation pouvait produire des ondes sonores. Et il en a créé un instrument. J'ai retrouvé un instrument de 1954 où Térémine lui-même explique en quelques mots et en russe la naissance du Tereminovox.
Электромузыкальный инструмент Terminvox – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
Léon Térémine, ici, était lui-même en action.
Au Tereminovox.
Au Tereminovox, oui. C'est donc un enregistrement de la radio-télévision de Moscou qui date de 1954, Jean-Yves Pat.
Oui, c'est assez étonnant d'entendre Térémine lui-même. En 54, Obokov mourait. Et vous le savez, c'était aussi le triomphe des ondes. Alors, Martenot, cette fois, qui font partie de la même famille, qu'on trouve dans toutes sortes de films, comme vous le disiez, d'épouvante, d'anticipation, d'angoisse, ou des films plus légers comme Fantomas, par exemple. Voilà, alors à Verdun, cette grande cérémonie de 1936 se termine par un grand serment qui a été écrit par Jean Subervile, qu'il dit lui-même au micro. C'est un serment qui ensuite sera traduit dans toutes les langues et chacun des groupes représentant les anciens combattants de 1916 répéteront le serment. Mais on le sait bien, malheureusement, ça se termine très mal. On écoute quelques mots de Jean Subervile et on se quitte là-dessus.
Oh, vous tous qui n'êtes plus, vous, si chers à la mémoire de vos patries, si chères au cœur de ceux qui vous ont vu tomber. Vous qui avez combattu ici ou en quelque autre champ de mort. Vous qui avez été meurtri par le fer, brûlé par le feu, précipité du haut des airs ou suffoqué par les gaz. Vous qui dormez dans une terre et vous qui avez été englouti. Vous dont les noms figurent sur des épitaphes parce qu'il nous fut possible de connaître les circonstances de votre...
C'est impressionnant, c'est vrai, il y a un ton qui est le ton de l'époque.
Il y a un ton, il y a une manière de chanter, la poésie, le sujet évidemment est éminemment dramatique. Je voulais quand même vous faire entendre ça, même si c'est pas purement un produit France Musique, parce que ça parle beaucoup, mais c'est aussi un lieu de création, comme vous avez pu le comprendre, avec cette œuvre qui a été commandée et qui est tout à fait dans l'air du temps. On a beaucoup parlé de l'avant-garde russe avec Stravinsky. Je crois que là aussi on franchit une avant-garde qui a le désir d'être international, et ce Rassemblement pour la paix en est peut-être un des symboles les plus puissants.
Merci Jean-Yves Pat.
À la semaine prochaine, on sera plus joyeux.
Et voici notre rubrique « Parlez-moi de musique » dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Joël D'Amico. Nous sommes en 2011 lors d'un opéra en plein air au château de Champ de Bataille en Normandie. Bien que cette journée de juin ait été chaude, la fraîcheur est tombée sur la campagne. Les hirondelles rasent le sol, lâchant leurs cris joyeux, annonciateurs de pluie. Chacun espère pouvoir écouter Madame Butterfly de Puccini avant que n'éclate l'orage prévu, car c'est bien ce magnifique opéra qui est donné cette année-là. Les premières notes s'envolent de l'orchestre tapis sous la scène. Peu de décors, mais un jeu de lumière savamment distillé ajoute une touche d'exotisme. La voix claire de la soprano s'élève dans le jour déclinant. C'est un moment magique. Je suis assise sur les gradins, toutouie et envoûtée par le son de cette voix qui s'unit à celle de l'orchestre. Lorsqu'arrive le moment où Madame Butterfly chante « Un bel di vediamo », l'émotion me submerge. L'horizon, comme sensible à cette scène, s'illumine tout à coup. L'orage gronde au loin. À la fin du troisième acte, Madame Butterfly est anéantie. Son amour l'a trompée, lui a volé son enfant. Elle pleure, tout comme moi maintenant, alors que quelques gouttes de pluie viennent diluer le sel de mes larmes que je n'essuie pas. Elles font partie intégrante du drame. Puis lorsque cette jeune japonaise met fin à ses jours, le site s'illumine de mille feux. Les éclairs zèbrent le ciel, donnant un côté fantasmagorique au tableau. Les dernières notes s'éteignent, je rejoins la voiture, encore bouleversée par ce que je viens d'entendre, et y penser me fait de nouveau venir les larmes aux yeux. En réponse à ces émotions, la nature se déchaîne et des trombes d'eau s'abattent sur le château, le parc et la campagne normande avec une rare violence. Un vent tempétueux balaie tout sur son passage. Double émotion pour cette soirée inoubliable.
Oh,
Pour illustrer le souvenir musical de Joël D'Amico, nous avons entendu deux extraits de l'opéra de Puccini qu'elle évoque, Madame Butterfly, dans la version que dirige Antonio Pappano à la tête de l'orchestre de l'Académie Sainte-Cécile de Rome. La soliste, eh bien, c'était Angela Gheorghiu. Merci à tous ceux qui nous confient leurs récits et qui ont, pour certains, la patience d'attendre que je les lise. Quant aux autres, nous attendons avec impatience vos souvenirs que je me fais un plaisir de partager à ce micro. Question de cœur avec Sophie Jeannin. Bonjour Sophie Jeannin.
Bonjour.
Sophie Jeannin, tout ce mois-ci, nous évoquons un petit peu les postures en général, le côté peut-être un peu plus physique de la direction d'un chœur et de l'échauffement. On parle beaucoup d'air, de respiration, quand on parle de chant. C'est fondamental.
Oui, et d'ailleurs, ça peut paraître étrange parce qu'on respire toute la journée, oui. Mais c'est vrai que là, c'est essentiel dans la projection et dans l'émission de la voix.
Alors, on parle de colonne d'air, alors on ne sait pas très bien où est-ce que cette colonne se situe. En tout cas, il y a une prise d'air à faire.
Oui, ce qu'on essaie d'instaurer, c'est vraiment une prise d'air qui soit en ouverture, c'est-à-dire qui permet aux côtes de s'élargir. On parle parfois de respiration abdominale, on entend le soutien, etc. Cela peut créer quelques malentendus, et surtout chez les jeunes élèves de la maîtrise. Il ne faut pas oublier qu'on respire avec nos poumons quand même, on ne respire pas avec notre
très
abdomen.
Clairement, oui.
Voilà, donc ça déjà, c'est important qu'on pense à la bonne partie du corps pour cette prise d'air. Mais ce qu'on essaye aussi d'installer, c'est une prise d'air qui soit ouverte, c'est-à-dire nous, on a tendance à vouloir avoir une prise d'air avec la bouche ouverte, par la bouche, et qui soit absolument pas audible. Cela nous permet, vous savez, c'est un petit peu comme un début de bâillement. Quand on a un début de bâillement, non seulement vous avez vos côtes qui s'élargissent, pareil, si vous faites une inspiration rapide avec la bouche ouverte, ça fait le même effet. C'est cela qu'on essaye de créer, de façon bien évidemment plus naturelle et un petit peu plus raffinée, on va dire. Mais il est important de passer par là pour qu'on ne gonfle pas la poitrine, qu'on n'ose pas les épaules, mais qu'on sent justement cette expansion et cette détente dans la prise d'air. Cela nous permet après de projeter un son dans la détente avec ce qu'on appelle, nous, le soutien, c'est-à-dire l'air qui est utilisé pour après servir au son qui est émis.
C'est une forme de contrôle de la respiration, en tout cas de l'expiration.
Oui, et vous savez que les tout petits bébés, ils ont en fait un système de respiration absolument idéal. Ce système-là est perdu très très vite. Et on a d'autres façons qui s'installent, donc on doit vraiment travailler avec tout ce que nous avons, on va dire, perdu en grandissant. Et cela, donc, devient nécessaire quand on fait le travail vocal pour le cœur.
Et alors, ce qui est très étrange, c'est qu'on ne respire pas quand on chante avec le nez, mais avec la bouche.
Oui, oui, nous on le recommande parce que déjà pour l'ouverture cela est très simple et vous savez que certainement quand on est au chœur de Radio France ou à la maîtrise de Radio France, il faut pas oublier que chaque fois qu'on chante on a un micro. Il suffit que vous soyez un tout petit peu enrhumé, vous savez, votre respiration par le nez risque d'être bruyante.
Merci de ces conseils Sophie.
Merci.
Thank you.
Un extrait du disque Chansons de marin que la maîtrise de Radio France a enregistré sous la direction de Sophie Jeannin. Enfin, il y a des places à gagner ce matin pour ce concert du 3 mars de l'Orchestre National de France que j'évoquais tout à l'heure. L'occasion de retrouver le pianiste Bertrand Chamaillou, tout fraîchement élu Victoire de la Musique 2016 dans le deuxième concerto de Saint-Saëns. Au programme également, Berlioz et Shostakovitch, le tout sous la baguette d'Emmanuel Krivine. Pour y assister, il vous suffit de vous inscrire au plus vite sur la page de Fabrication Maison sur le site de francemusique.fr. Et voilà, c'est la fin de notre émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, Cécile Gissot, Frédéric Potry et Xavier Atto. N'hésitez pas à podcaster ou à réécouter l'émission. Et puis, on se retrouve très vite. Thank you.